Ça nous concerne maintenant avec le mois de Elul, donc préparation Rosh Hashanah et Kippour. Dans les... Il faut réparer les bêtises qu'on a fait. Et il est relativement simple de réparer les bêtises qu'on a fait avec Dieu. Parce que c'est avec le bon Dieu il est bon, et puis il ne me voit pas, et puis s'il me voit en tout cas, enfin, il me voit, mais j'ai pas l'impression qu'il me voit, et je sais qu'il est bon, et j'ai pas trop honte, parce qu'il n'aime pas me regarder comme ça. C'est relativement simple. En fait, tout va. Je reconnais, je regrette, je prends sur moi de changer. Et mon Dieu, il pardonne. La partie la plus dure de la tchouva, la plus compliquée, la plus délicate aussi au niveau de, non seulement de la réparation, mais des dégâts causés, arriver à ne pas causer de dégâts, c'est la relation avec l'autre. Puisqu'il est facile de blesser quelqu'un, et difficile de réparer. Parce qu'il faut faire deux actions. Quand tu fais une action qui est interdite par la Torah envers ton prochain, tu as transgressé deux interdits. L'interdit par rapport à ton prochain, que tu as blessé, que tu as volé, que tu as endommagé, et par rapport à Dieu, qui est interdit de blesser, de voler ou d'endommager. On fait une double tchouva. Tchouva par rapport à lui, demander pardon, et il faut qu'il pardonne. Et après ça, il faut faire tchouva par rapport à Dieu. Il y a un avis qui n'est pas l'halakha. Je souligne que ce n'est pas l'halakha, mais c'est quand même un avis. Ça veut dire à quel point les choses sont importantes. Qui dit que Dieu ne pardonne pas les péchés qui sont entre lui et l'homme. Par exemple, quelqu'un il a mangé du porc, il a été avec une fille interdite, il a fait Chilou Shabbat. Il n'a pas mis les tefillines, il n'a prié pas comme il fallait, il a regardé des filles. Ça, c'est tout des choses qui sont en relation entre l'homme et Dieu. D'accord? C'est interdit par Dieu, mais ce n'est pas que j'ai blessé l'autre. Alors, il est marqué, d'après cet avis-là, que si maintenant j'ai des péchés envers moi et mon prochain, je l'ai vexé, je l'ai fait en don public, je l'ai volé, et c'est facile de voler. C'est très facile, non. Je ne parle maintenant de venir la nuit et piquer un porte-monnaie de quelqu'un dans sa valise. Ça, c'est du vrai vol à l'étalage. C'est certain que c'est interdit, tout le monde comprend. Mais il y a un stylo qui traîne sur la table. Je prends une seconde pour écrire un numéro du vol. On fait la queue et je passe devant quelqu'un. C'est du vol. Le stylo, encore, j'utilise un peu d'encre. Je ne vais rien utiliser. Il y a un livre qui traîne là. Je prends le livre, j'ouvre, je lis une page, je referme. Le livre, il est tout aussi nickel que je l'ai pris. Si le propriétaire n'est pas d'accord, ça s'appelle du vol. D'habitude, les livres de Torah, les personnes sont d'accord. En tout cas, il les laisse traîner. Mais si le type n'est pas d'accord, par exemple, il y a un diyoun, il y a une discussion dans la halakha, ou des tefilines. C'est pas qu'un talit, tu peux prendre un talit de quelqu'un sans lui demander, parce qu'on dit, les juifs, ils sont gentils, ils sont très contents que quelqu'un fasse un mitzvah avec leurs ustensiles, donc il est d'accord. Les tefilines, c'est marqué aussi. Tu peux prendre les tefilines de quelqu'un et les mettre sans lui poser la question, parce qu'on sait que lui, de facto, il est d'accord. Les décisionnaires des derniers siècles, déjà, ont dit non, ça a eu été. Aujourd'hui, un type qui a des bouts de filine, il n'est pas d'accord que quelqu'un vient avec sa tête pleine de pellicules, de graisse chevelue, d'accord. Il me met de filine et il fera attention, oui ou non. Moi, ça me dérange. Si le type vient maintenant, utilise une chose qui ne lui appartient pas, sans me demander l'autorisation, on appelle cela « shoel shelom idat », bien qu'il restitue bien, il restitue exactement le même état comme il faut, il n'y a eu que utilisation. Si le propriétaire n'est pas d'accord, c'est du vol des oraita de la Torah. Donc il est très facile de voler. Donc toutes ces choses-là, si quelqu'un a transgressé donc un interdit entre l'homme et son prochain, il faut réparer. Cet avis-là, de Rishonim, qui n'est pas la halakha, je précise, dit que si tu as réparé en ce qu'il y a entre toi et Dieu, tu as fait une tchouva en pleurs sur Shabbat, sur les filles, sur la cacheroute, tout ça, tu as été nickel. Mais tu n'as pas réparé toi et ton prochain, alors tout ce que tu as fait comme tchouva entre Dieu et toi ne vaut rien. Dieu regarde d'abord le prochain et après lui. La halakha n'est pas comme ça. Mais il y a un avis qui dit cela. Nous devons faire attention. L'essentiel de Yom Kippour, c'est évidemment aussi la tchouva envers Dieu, mais c'est surtout envers son prochain. Et c'est difficile. Parce qu'il est facile de blesser et difficile de réparer. D'abord, il faut lui demander pardon. Et c'est pas... Quelqu'un, regardez un exemple qui est tellement flagrant et terrible. La sonora. Je dis une chose mauvaise sur quelqu'un. Il n'est même pas au courant que j'ai dit. Je dis sur lui, donnez-moi un exemple. Il est un peu, ouais, il est un peu bébête, lui. Hein? Oh, il me saoule avec une pompe, avec son... Un truc, hein? La sonora. C'est une chose. C'est quoi la sonora? Dire une chose négative sur quelqu'un qui est vrai. Il sent pas bon. T'as vu, ça fait 3 jours qu'il s'est pas lavé, et franchement... Tu fais comme ça. Tu n'as même rien dit, tu as fait un mouvement. Hein? C'est du lashon hara, de la Torah, de Horaïta. Maintenant, tu apprends ça en voyant un cours à l'Eshiva. Tu dis, bon, il faut faire tchouva. Tu vas voir, écoute, Moshe, tu m'excuses, mais on était dans la chambre, et puis t'es passé, et j'ai fait, je te demande Mechila. La tête du type, comment elle devient? Rouge, jaune, verte. C'est très dur. Facile d'ouvrir la bouche, très dur de réparer.
Surtout qu'on va s'engueuler avec tout le monde si on fait ça.
Alors, le Rav Esraïm dit, il n'y a pas le choix. Enfin, oui, il y a une solution, c'est quoi? C'est aller voir tous les gens à qui tu as parlé, et leur dire, écoutez, l'autre jour j'ai fait comme ça, je me suis complètement trompé, en fait c'était pas lui, c'était moi qui... Enfin, trouver, c'est moi qui ai fait un gaz, enfin, trouver quelque chose de l'innocenté. C'est-à-dire, il faut retirer ce que tu as dit à l'autre, et que l'autre comprenne que c'est vraiment faux. Il faut y aller, hein, parce que les gens, ah ouais, bon, tu fais tout avant qui pour maintenant, allez, on t'a vu. Moi aussi, je sens que j'ai senti qu'il sortait mauvais, lui. Qu'est-ce que tu me racontes? Lui, il fait un chanara, lui, maintenant, d'accord? C'est très compliqué. Alors, il y a deux moyens. Ou bien aller demander pardon à la personne sur qui on a parlé, ou demander, ou aller voir les gens à qui on a parlé, et leur dire ce que j'ai dit sur X, c'est faux. Il faut qu'il te croie. Et c'est pas facile. C'est le Rav Esraïm, mais c'est, on peut dire, la Rav comme ça. Le Rav Israël Bissalant a écrit, déjà un siècle et demi, il a dit qu'il y a un problème. C'est quand tu vas dire à quelqu'un que j'ai parlé à Chandra sur toi, ah oui, qu'est-ce que tu as dit, je dis ça et ça et ça, et à qui? Tu le blesses. Tu le blesses. Alors, il y a une interdiction de blesser quelqu'un. L'autonou ishudamito. On appelle ça onadvarim, on a fait quelques cours là-dessus déjà aussi. Onadvarim, baisser quelqu'un avec la bouche, avec une parole, c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué. Chassam, il dit, il n'y a rien à faire. Si tu veux réparer ton lashon hara, il faut le dire. Mais on a eu l'expérience à montrer que ça fait des histoires terribles. Toi, tu crois que c'est un petit rien que tu as dit, et lui, le type, il le prend, c'est une histoire familiale, c'est des fois des montagnes énormes. Le mieux, c'est pas de faire pécher. Pas de faire ça, c'est certain, le mieux, de pas faire de dégâts. Si déjà le dégât, il est fait. Ce que je fais moi d'habitude, si déjà j'ai dit, alors avant Yom Kippour, les gens se demandent pardon, je te demande pardon, je fais du mal cette année, etc. Et même si je l'ai fait de la lashon hara, pardonne-moi. D'accord? Et moi je te pardonne si jamais tu as parlé de la lashon hara sur moi. C'est pas clair que c'est valable. Parce que lui il dit, ouais c'est bon, mahoul, je te pardonne. Mais s'il avait su de la lashon hara que j'ai fait sur lui, il m'aurait jamais pardonné. C'est ça la question. C'est un gros problème. Maintenant, si on l'a volé, il faut non seulement demander pardon, mais il faut rendre, restituer ce qui a été volé. Ou lui demander, écoute, je ne peux pas te restituer, pardonne-moi la somme. Ou pardonne-moi et permets-moi de payer ça en différé, etc., en plusieurs paiements. En tout cas, il est très facile de toucher son prochain, il faut réparer. Et c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander pardon. Maintenant, faut-il encore que la personne te pardonne? Il dit, mais tu te rends compte ce que tu as fait? À cause de toi, j'ai perdu mon travail, toute ma belle famille, mais j'ai sur le dos, j'ai perdu mon chidour, t'as dit sur moi que je sentais mauvais, c'est terminé. Ça fait... tout le monde me dédesse à l'Eshiva, j'ai dû quitter l'Eshiva de façon honteuse, et donc j'ai pas pu me marier, je me suis avec une autre, et puis jusqu'à aujourd'hui j'en souffre, et j'arrive la première. C'est à cause du moment... Ça se peut. Il y a une histoire, je vous raconte. T'as une question? tout vient. C'est pour ça que la personne, normalement, elle doit être suffisamment bonne pour pardonner et comprendre que tout vient de Dieu. Mais elle n'est pas obligée. Tant que toi, tu n'es pas venu demander pardon, il n'est pas obligé. Quand toi, tu feras ton rôle, parce que toi, ce n'est pas de Dieu, c'est toi qui as péché. Moi, ce qui m'arrive, ça vient de Dieu. Mais si quelqu'un va et fait un péché, c'est un cas de Dieu, ça vient de lui. Quelqu'un mange du porc, il dit, c'est Dieu qui veut que je mange du porc. Non. Nous sommes responsables de nos actes. Dieu les connaît à l'avance, mais ne décide pas. Le libre arbitre nous est entier de nos actions. Ce qui m'arrive à moi, ça dépend de Dieu. Attends, c'est vrai qu'une fois que j'ai compris que c'est Dieu qui m'a envoyé ça, et la petite vient s'excuser, je peux l'excuser. Je sais bien l'excuser. Il faut l'excuser. D'accord ? On verra exactement les modes et les conditions. Je suis en train d'expliquer qu'est-ce que c'était. Pardon ? Ah, une belle histoire. Prenez la Gemara. Vous aurez dans les commentaires à la fin de la Gemara un rabbin qui est épatant. Petit mot, mais il fait toujours des commentaires. Les questions qu'on se pose, il les pose aussi, il donne des réponses qui sont très très courtes et intéressantes. Ça s'appelle le Rachash. Rabbi Shmuel Strachan, le Rachash. Il vivait il y a environ 250 ans ou 200 ans en Europe. Et il avait un gmar. Qu'est-ce que c'est qu'un gmar? C'est une chose qui a extrêmement développée ici en Israël. C'est une somme d'argent de prêt sans intérêt. La Torah interdit de prêter un juif avec intérêt. Donc, on prête sans intérêt. J'ai mon voisin, il a le plus grand gmar de Jérusalem. Il a, je crois, 10 millions de dollars qui tournent tous les lundis soirs. T'as la queue là-bas, il prête 5 000, 10 000, 15 000 dollars, d'accord? Avec des garanties, bien sûr, mais sans aucun intérêt. Et bon, c'est comme ça que ça tourne, et ça tourne bien. Il y en a beaucoup, c'est très court. Tu as des gmars ici de 300 shekels, tu as des gmars de tout, d'accord? Des trucs de prêt sans intérêt. On prête de tout, mais aussi beaucoup de l'argent. Lui avait aussi, le Rachash, il avait un gmar. Et voici que un beau jour, quelqu'un vient, c'est le boucher de la ville, qui vient et rend un gmar d'une somme assez, on va dire, 5 000 dollars. Le Rachash prend cette somme-là, il est en train d'étudier, il met dans sa gmara. Et il dit, ok, c'est bon, merci beaucoup, c'est réglé. Il continue à étudier. Il finit son étude, il ferme sa gmara, la range dans l'armoire, dans la bibliothèque, et voilà. Le lendemain, il commence un autre traité. Deux, trois semaines passent, un mois, lui, il prend ses comptes, il voit que le boucher n'a pas payé. Il voit le boucher, écoute, les 5 000 dollars, tu me les dois. Comment je vous les dois? Je les ai rendus, il y a un mois, je suis venu, vous êtes en train d'étudier, je vous les donnais. Écoute, moi, je suis un type sérieux. Chaque texte qu'elle me donne, je note tout de suite, je sais ce que je fais. Bon, je te laisse encore un mois, mais... Boucher, comment encore un mois? Un mois passe, le rabbi dit, écoute, Din Torah, tribunal rabbinique. Évidemment, le boucher, les gens commencent à parler dans la rue. Le boucher n'a pas rendu, parce qu'entre le rabbin, le rachash, et le boucher, tu comprends à qui on fait confiance. Et un boucher qui a un din Torah avec le rachash, et ben le boucher, plus personne ne vient acheter chez lui, parce qu'on doit lui faire confiance, qu'il n'a pas magouillé la viande, il a bien fait la shrita, et tu sais, on peut prendre un peu de vache de cheval et mettre un peu à la place du bon steak, et ça se vend. En deux mois, il a fait faillite. Il a dû quitter la ville, honteux, terrible. Sa vie a complètement changé. 7-8 ans plus tard, le rachash reprend le même traité, qui est, tous les 7 ans, Si on fait une page par jour, tous les 7 ans, on finit tout le chasse, on finit tout la Gemara. Et il reprend, il étudie, il ouvre la page, 5 000 dollars qui tombent. Il a compris. Il est allé voir le boucher dans l'autre ville, il dit, Merhila, Khatati, Abedi Pachati, j'ai péché, je regrette, voilà, maintenant je fais des annonces partout, que je m'étais trompé, et que les 5 000 dollars, c'est faux, tu nous as rendu, terminé. Le boucher dit, je veux bien vous excuser, mais vous croyez que les gens, ils vont croire. Ils vont se rendre compte que vous êtes un type qui est très bon. Et bien, vu que ma vie elle a été ravagée à cause de cette histoire-là, donc ça fait vous m'avez réhabilité pour que je puisse avoir un semblant de vie. Mais tout le monde sait très bien que je suis un voleur. Alors je réfléchis et dis, t'as raison, il faut que je répare ça. Il faut que je fasse un acte que tout le monde comprendra qu'effectivement, c'est pas une histoire que je fais comme ça, c'est vrai. Écoute, voilà, j'ai une fille à marier, je sais que tu as un fils qui est un fils réussi, Moi, ce n'était pas très que le rabbin devienne famille avec le boucher. C'est pas un truc de chez nous. Mais vu que ton fils il est bien réussi, et ma fille aussi, je te donne la fille pour ton fils. Et comme ça, tout le monde saura qu'en aucun cas, je me serai marié, j'aurais accepté que ma fille se marie avec le fils du voleur. Et tout le monde saura, tu es réhabilité. Et comme ça, il a fait. Et vraiment, il a été réhabilité comme ça, et le boucher a excusé. Donc, c'est difficile de réparer, très facile de tout casser. Maintenant, est-ce qu'on doit excuser? Quelqu'un vient maintenant me dire, pardon, j'étais mis du poil à gratter pendant 6 mois dans ton lit, c'était moi le coupable. Et moi, je lui dis, ça fait 6 mois que je ne dors pas, à cause de ça, je me gratte toute la journée. Est-ce que j'excuse, oui ou non? Je dis non. Tu viens maintenant, je te fais une bonne blague. Hein. Avant, il y a un petit problème, je te fais une bonne blague. Poil gratté, c'est moi. Allez, mechila, mechila. Quoi, mechila, mechila? Ça fait 6 mois, tu as vu un peu mes cernes, là, je... Oust. Je ne suis pas mochel. J'ai le droit. Jusqu'à 3 fois. S'il y a 3 tentatives... honnête, authentique de la part du type qui a fait le mal, de venir demander à celui qui était blessé, Mechila, des excuses, un pardon, au bout de 3 fois, le type qui a été lésé est obligé de pardonner. S'il vient et dit, pardon, excuse-moi, je lui réponds non. Après, il fait un petit tour, ça m'était, pardon, excuse-moi. Et 3e fois, pardon, excuse-moi. Ah, mais attends, c'est, ça ne va pas. C'est une tentative, ça n'a pas été revu avec une délégation, des gens qui ont voulu parler, des rabbinis, un coup de le pauvre, ils se morfont, ils regrettent vraiment. Comment il faut vraiment qu'on voie que le type, il regrette. C'est pas tralala, pardon, pardon, et on recommence après un petit peu, on recommence avec pas le poil à gratter, il va mettre maintenant des puces, d'accord, je ne sais pas ce qu'il va faire, d'accord. Il faut qu'il y ait, que ce soit une vraie demande d'excuse. Si après 3 fois, on va en parler aussi, si après 3 fois, le... lésé n'a pas excusé, alors sur lui est le péché. Pas le même péché, mais en tout cas, c'est lui qui est pécheur dans l'histoire. Il aurait dû excuser. Il y a, le peuple juif est un peuple miséricordieux qui pardonne. Qui pardonne. Il y a 2 cas, uniquement dans la halakha, où la personne qui est lésée peut ne jamais excuser. Même si 1000 fois, il y a 1000 tentatives authentiques de demander pardon, le type peut dire... va te faire voir, je ne vais pas te voir. Je ne pardonne pas. Néanmoins, dans ces cas-là, ça sera aussi une mesure de piété pour la personne qui est lésée de oui pardonner. Il n'est pas obligé, d'après l'Halakha, mais c'est conseillé. Quels sont ces cas? Si on a blessé son rav. Son rav mouvak. Le rav, dès qu'on a pris la majorité de sa Torah. Lui peut te renvoyer 1000 fois même. 2e cas, si tu as fait ce qu'on appelle Otsat Shemra. Otsat Shemra, c'est dire une chose qui est fausse sur quelqu'un. Lashon Hara, une chose fausse, négative sur quelqu'un. Lashon Hara, c'est une chose qui est vraie. Tu dis, il sent pas bon, et vraiment, il sent pas bon. Maintenant, quand tu mens, tu dis, il sent pas bon, et il sent bon. Enfin, il sent pas mauvais, en tout cas. Ou même, tu t'exagères un peu. Tu dis, ah ouais, il est toujours en retard. Il n'est pas toujours en retard. Des fois, une fois sur 1000, il arrive à l'heure. D'accord? C'est déjà un mensonge. Chaque fois une chose qui est négative qui est un mensonge, ça devient Hotsat Shemra. C'est la même chose. Motsi Shemra, Hotsat Shemra, Hotsat Shemra. Motsi, c'est le type, Hotsat, c'est le substantif. D'accord? Être Motsi Shemra, on appelle ça Hotsat Shemra. Dire une chose, un mauvais nom sur quelqu'un, faire une publicité négative sur une chose qui n'est pas vraie. Le type, il n'a rien fait. Il est honnête. Il n'a absolument rien fait. Tu le salis en public, ou pas en public, tu le salis pour une chose qu'il n'a pas fait. Il a le droit de ne pas pardonner jamais. Dans ces 2 cas-là, ce sera une mesure de piété de oui pardonner. Et là, il faut savoir que si quelqu'un vient durant ces jours-ci, maintenant, avant Kippour, nous demander pardon, et nous, on peut lui refuser. C'est un grand, grand avantage pour nous de lui pardonner vite. Pourquoi? Parce que comme nous, on se comporte avec l'autre, comme ça, Dieu se comporte avec nous. Et si toi, tu vas aller au niveau de la loi stricte, on va te juger au niveau de la loi stricte. Et qui peut, par rapport à la loi stricte, au niveau du din, la justice la plus rigoureuse, dire à Dieu, moi, d'après la justice, ça va, je n'ai pas de problème. On est tous fichus. On n'a aucune chance. Notre seule chance, c'est arriver à aller au-delà de la justice. Dire, ok, d'après la justice, je peux maintenant demander ça et ça, exiger, ta, 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 être en kikinant. Mais je passe l'éponge. Tu passes l'éponge, là-haut, qu'est-ce qui se passe? Au même moment, on passe l'éponge aussi. Oui.
Est-ce que se faire pardonner, une poignée de main après la prière chez Jonas suffit? Ou même sur Internet, on parle à quelqu'un, on dit...
Il faut que le mot merkela, le mot pardon, ait été prononcé, que ce soit clair. Ou tu lui dis, pardonne-moi, il dit oui. Mais si c'est se laver, se tenir la main, c'est rien. Il faut que ce soit très clair. Très clair. Sincère.
Face à face.
Pas forcément face à face. A priori, en face à face, parce qu'on veut qu'il ait un peu honte, mais si on ne peut pas, alors on peut aussi par délégation, par lettre, etc. Mais il faut entendre une réponse du type. Qu'est-ce qui se passe si le type, il est mort? Tu lui as fait les 40 ans de malheur, il est mort pour finir. Bon, oh, il est mort le pauvre. Mechila, 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 il est mort. Tu prends 10 personnes, tu vas sur sa tombe et tu demandes Mechila. Je ne sais pas si c'est sûr que c'est accepté, c'est comme ça qu'il faut faire.
Par exemple, je suis en train de faire une bracha et quelqu'un vient volontairement, il me dérange pendant la bracha et j'oublie la suite de la bracha. Et je suis obligé de recommencer. Et je fais bracha levata là, donc la première. Est-ce que j'ai le droit d'être mochel là-dessus?
La question est, si maintenant moi je veux faire, quelqu'un me fait faire une avera, c'est ça en gros, me fait faire un péché, n'est-ce pas?
Ouais.
Est-ce que j'ai le droit de l'excuser, oui ou non? À mon avis, je me pose la question, est-ce qu'il a fait un péché envers toi? Non. Toi, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Tu fais une bracha. Au milieu, quelqu'un maintenant, il te fait ouh, d'accord? Et à cause de ça, tu as complètement oublié qu'est-ce que tu devais dire et tu t'es embrouillé, hop, tu as dit le nom de Dieu pour rien. Dans le ciel, tu es appelé Anus. Anus, ça veut dire c'est malgré toi. Anus, patur meklum. Quelqu'un qui est contraint malgré lui, il n'a aucune obligation dans le ciel. C'est comme si maintenant je t'oblige, viens un goy, te met un morceau de porc dans la bouche et te fait manger. Tu es obligé de le mettre dans le ciel, on va te dire que tu es coupable d'avoir mangé du porc. Non, c'est complètement malgré moi, j'ai aucune. Je pense que lui n'a rien fait contre toi. Lui, il a payé par rapport à Dieu. Il peut peut-être venir te demander pardon que je t'ai rendu triste. D'accord, oui, moi je pense que oui. C'est pas différent que de...
Alors, par exemple,
c'est toutes ces choses-là. Ok, toutes ces choses-là. Quand quelqu'un te fait un péché contre toi qui t'empêche de faire ton service divin comme il se doit, tu peux l'excuser. Lui, il aura une facture supplémentaire par rapport à Dieu pour tout ce qui t'empêchait à toi. Il faut bien dissocier. Il t'a fait du mal, mais le dommage qui a été fait n'a pas été fait en toi, a été fait dans le ciel. Lui, il devra payer ça. Lui de demander pardon au ciel que j'empêche les élèves d'étudier dans la yeshiva et je joue au football dans les couloirs à 2h du matin. Je claque les portes à 1h du matin. D'accord? Pour parler de choses qui sont hélas courantes. Je sais qu'ici à la yeshiva, les claques portes. Il faut savoir fermer une porte et non la claquer. C'est très dur d'apprendre, mais on peut. Oui. On peut demander Mechila, pardon, par téléphone, par net, mais il faut que le type il t'excuse par téléphone aussi.
Mais ça peut être sur quelque chose de précis obligatoirement. On peut dire, bon, si je t'ai vexé durant l'année, etc., ça marche aussi.
Ça marche aussi, mais quand je te dis que la réponse que m'a donné le rabbin Sanaba Shaoul, il m'a dit, si tu sais que tu as fait un gros truc, et lui te dit, lui, comme tu dis, ça a l'air d'un petit rien du tout, et tu dis, ouais, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais s'il savait ce que tu as fait comme ça le coup, jamais il aurait pardonné. Alors c'est rien, c'est de la blague. Ouais, c'est le cas à peu près de toute la population, 99% de la population. Alors la Gemara elle dit, celui qui fait la Shonara Matakano, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il étudie la Torah. On appuie avec la bouche, on répare avec la bouche. Si on ne sait plus qui, quoi, on ne peut pas. Au moins ça. Et apprendre les lois et dorénavant faire très attention. Bah ou Khadonai, alors même.